Bonjour James, bonjour chers auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. La semaine dernière, je vous ai parlé des droits de la femme. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui se passe en Asie-Pacifique. Et oui, que se passe-t-il? Depuis quelques jours, les médias nous parlent d'un contrat de sous-marin avec l'Australie qui nous échappe au profit de celui des Américains. Les mêmes médias français parlent de la gifle des Anglo-Saxons, Américains, Britanniques et Australiens vis-à-vis de la France. Pour un peu, et nous invoquons encore le souvenir de Jeanne d'Arc et de Mercel Kébir en oubliant ce que nous devons à ces pays. Essayons ici de comprendre les motifs géopolitiques qui nous, en nous servant de l'histoire et de l'actualité et en nous mettant à la place des autres, j'ai nommé ici l'Australie et les États-Unis. Nous assistons depuis une vingtaine d'années à une redistribution des cartes d'alliance dans la région Asie-Pacifique pour contrer la montée en puissance de la Chine populaire. Cette montée en puissance est un fait. La Chine est devenue la première puissance industrielle. Xi Jinping souhaite que la Chine soit la première puissance mondiale totale du XXIe siècle. La puissance chinoise se manifeste en Birmanie avec le soutien à la junte militaire, au Pakistan qui semble changer d'allié en quittant les États-Unis au profit des Chinois. Les Chinois sont toujours liés à la Corée du Nord et désormais ils soutiennent les talibans de Kaboul. Ainsi se forme ce qu'on pourra appeler un glacis autour de l'Union indienne de Modi, dont l'armée a affronté l'armée chinoise sur les sommets de l'Himalaya en janvier dernier. Pendant que nous dissertons et manifestons sur le Covid et le pass sanitaire, pas sanitaire, le vaccin, pas vaccin, le gouvernement de Pékin a mis à genoux le mouvement démocratique hongkongais. Les militants démocrates ont été emprisonnés et accusés de collaboration avec l'ennemi américain. L'exil des démocrates hongkongais s'est accru vers l'Australie et la Grande-Bretagne et les États-Unis. La Chine populaire accroît la pression sur Taïwan qu'elle considère comme sa province. Or, les citoyens de Taïwan ont réélu démocratiquement Madame Tsai Ing-wen depuis 2016 et cette dernière revendique ouvertement l'indépendance et la reconnaissance de Taïwan par la communauté internationale, ce qui n'est plus le cas depuis 1973 aux Nations Unies. La politique agressive de la Chine se tourne vers la mer de Chine contre le Japon, pour les îles Senkaku, au sujet des îles Spratly, avec les autres pays comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Taïwan. Cette agressivité est donc bien visible pour les États de la région Asie-Pacifique, qui se tournent tous, y compris le Vietnam, on s'imagine le Vietnam, se tournent tous vers les États-Unis, seuls garants de, leur protection. Pourquoi ? Parce que la Chine a multiplié par 7 son budget militaire. Tous les 4 ans, elle produit l'équivalent des marines militaires françaises et italiennes réunies. Alors que la France se pose encore des questions sur la construction d'un second porte-avions, qui remplacera l'actuel Charles de Gaulle, la Chine en produit un tous les 3 ans. Ces investissements économiques en Asie-Pacifique sont aussi une façon pour Beijing de se constituer des alliés politiques et militaires. Ainsi en est-il pour du Pacifique Sud, au Vanuatu ou aux îles Fidji, qui étaient jusqu'aux années 2000 sous la domination des Anglo-Australiens. L'Asie et Canberra ont légitimement peur de la Chine. Et Le Drian, alors ministre de la Défense de Hollande, le savait parfaitement. C'est pourquoi la France a multiplié les contrats dans la région. Rafale en Inde, sous-marin en Australie. Thales, cette grande entreprise française multinationale, est devenue l'un des grands fournisseurs militaires de l'Australie. L'Asie est devenue un grand marché de l'armement bien plus important que le Moyen-Orient. L'Australie est une puissance régionale d'origine britannique. Le lien avec Londres existe encore. La reine d'Angleterre est encore reine d'Australie. Elle s'est toujours sentie isolée et faiblement démographique. Que peuvent en effet 25 millions d'euros australiens contre les géants asiatiques sinon rester proches de leurs puissants fondateurs et alliés, j'ai nommé la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les liens sont encore plus étroits avec Washington depuis 1940, car l'Australie a eu très peur d'une invasion japonaise. Cette relation s'est perpétuée lors de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis par des accords comme l'ANZUS et l'OTAS. Et les Australiens ont participé activement à toutes les campagnes américaines du Vietnam à l'Afghanistan en passant par l'Irak. N'oublions pas une dernière chose, les Australiens participent encore et toujours au réseau d'écoute planétaire échelon avec les Britanniques, les Allemands, les Canadiens et les Néo-Zélandais. La politique isolationniste de Trump a fait peur au Premier ministre conservateur Scott Morrison, très proche pourtant de Trump. l'Australie a lancé un programme de 270 milliards de dollars australiens pour améliorer son armée en vue d'une confrontation avec Beijing. Le Covid a envenimé les relations avec Beijing, Canberra accusant nommément les Chinois d'avoir caché la maladie et d'être responsable de sa diffusion planétaire, donc des victimes. Notez que, en même temps, l'UE ne dit plus rien à ce sujet. Donc la Canberra, l'Australie, participe déjà au Quad, alliance militaire à l'initiative de Tokyo entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et donc l'Australie. Cette alliance est dirigée contre la Chine populaire et son agressivité. La venue au pouvoir du démocrate Biden, même s'il n'est pas du même bord que le Premier ministre australien, plus proche idéologiquement de Boris Johnson et de Trump, est une nouvelle donne pour Canberra. L'administration Biden a signé, il y a une semaine, le 15 septembre 2021, une nouvelle alliance militaire avec Canberra en incluant Londres. C'est l'AUKUS. Les signataires réaffirment le partage des nouvelles technologies, des renseignements, c'est-à-dire l'espionnage, des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire la fourniture d'armement. L'Australie peut ainsi acquérir des sous-marins en 18 mois, alors que l'industrie française a déjà des retards de livraison dans un contexte de crise politique et militaire de plus en plus intense. Cette course à l'armement de la région est générale de l'Australie au Vietnam, en passant par l'Indonésie et la Malaisie et les Philippines. Le vieux concept d'Asie-Pacifique cède la place depuis Obama à celui d'Indo-Pacifique, englobant cette vaste superficie où vit 70% de la population mondiale, 70% du potentiel industriel et transite 60% du commerce mondial, qui se fait par voie maritime. Il s'agit bien pour les alliés de l'Australie de contenir la Chine. Il s'agit bien ici d'une nouvelle guerre froide. Biden a téléphoné la semaine dernière à Xi Jinping pour prévenir que les États-Unis ne voulaient pas rentrer en guerre contre la Chine. Il y a une nouvelle alliance militaire avec Canberra en incluant Londres. C'est l'AUKUS. Les signataires réaffirment le partage des nouvelles technologies, des renseignements, c'est-à-dire l'espionnage, des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire la fourniture d'armement. L'Australie peut ainsi acquérir des sous-marins en 18 mois, alors que l'industrie française a déjà des retards de livraison dans un contexte de crise politique et militaire de plus en plus intense. Cette course à l'armement de la région est générale de l'Australie au Vietnam, en passant par l'Indonésie et la Malaisie et les Philippines. Le vieux concept d'Asie-Pacifique cède la place depuis Obama à celui d'Indo-Pacifique, englobant cette vaste superficie où vit 70% de la population mondiale, 70% du potentiel industriel et transite 60% du commerce mondial, qui se fait par voie maritime. Il s'agit bien pour les alliés de l'Australie de contenir la Chine. Il s'agit bien ici d'une nouvelle guerre froide. Biden a téléphoné la semaine dernière à Xi Jinping pour prévenir que les États-Unis ne voulaient pas rentrer en guerre contre la Chine. Il y a donc un téléphone rouge entre Washington et Pékin, comme entre Moscou et Washington. N'oublions pas que ce sont des puissances nucléaires et membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto comme la Grande-Bretagne et la France. Dans cette crise, notez bien que l'UE est absente. Une puissance européenne est illusoire sans un pouvoir politique lisible et responsable démocratiquement devant une nation. Qui va commander à des hommes d'aller se battre à l'autre bout du monde pour l'Europe? Qui? Quel président? Il n'y a pas de président européen. Il n'y a pas de véritable parlement avec pouvoir de contrôle sur un président américain. Nous ne sommes pas ici dans un régime politique à l'américaine et encore moins dans un régime politique à la chinoise. Ce d'autant plus que parmi les 27 pays qui forment l'Union européenne, vous avez trop souvent des pays qui regardent leur propre nombril, donc leur souveraineté, soi-disant, et où Washington et Beijing avec les yeux de chimène. Nous sommes bien loin, chers auditeurs et auditrices, de ce que nous espérions avec la fin de la guerre froide précédente. Nous sommes bien loin de ce que des enjeux planétaires qui sont face à nous, c'est-à-dire les enjeux d'égalité sociale, les enjeux d'égalité face à l'économie, les enjeux de réchauffement planétaire et de la nécessaire mobilisation de tous et de tous les pays du monde, j'ai bien dit de tous et tous les pays du monde, pour lutter contre les ravages de ces différentes inégalités et de cette catastrophe qui semble s'annoncer devant nous. Voilà, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne journée, et puis salut et fraternité à tous.
On se retrouve la semaine prochaine, Serge, pour une chronique géopolitique. On va se quitter avec Hard Day's Night des Beatles. Et puis, tu viens quand tu veux nous faire une belle petite chronique pour nous faire réfléchir un petit peu. Ça nous fera pas de mal. It's been a hard day's night, and I've been with-
you alone, you know.